historiquement vôtre continue dans cette dernière demi-heure. Vous le savez, nous remontons aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et le quotidien de David Castello-Lopez, qui est un garçon étrange, ce sont les spectacles de mentalisme, visiblement.
Tout à fait. Souvent dans ma vie, moi je me suis passionné pour des choses pendant des périodes courtes, mais de façon extrêmement intense. Je me suis passionné pour le baseball, par exemple, j'en ai déjà parlé. Je me suis passionné pendant le thé, pendant 3 mois de ma vie, où je n'ai pensé qu'à ça. Je n'ai fait qu'améliorer mes infusions, tout ça. Et il y a 5 ans, j'ai eu une courte phase de passion pour la magie. Pas pour la pratique de la magie, mais pour l'histoire et la théorie de la magie. J'ai acheté des livres de reproduction d'époque très chers. J'ai regardé des dizaines d'heures de magie sur YouTube. Et surtout, j'ai lu ce livre que je tiens dans la main en ce moment, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Jim Stenmeyer, et dont le titre est « Hiding the Elephant, How Magicians Invented the Impossible ». Faire disparaître l'éléphant, comment les magiciens ont inventé l'impossible. C'est une histoire de l'âge d'or de la magie entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et l'une des choses qui m'a le plus fasciné dans ce livre, c'est l'histoire d'un tour de magie, de mentalisme, qu'on appelait la seconde vue. Le principe de la seconde vue, il est simple. Le magicien a un assistant ou une assistante sur scène qui a les yeux bandés et qui tourne le dos au public. Le magicien, il prend des objets au hasard dans le public et il demande à son assistant « qu'est-ce que je tiens dans ma main ?» Et à la stupeur de l'assemblée, l'assistant devine non seulement le type d'objet, mais sa matière, sa couleur et même d'autres détails super précis. Le premier à avoir fait ce tour, c'est sans doute un magicien anglais dans les années 1780, mais le premier qui lui a donné ses lettres de noblesse, c'est Robert Houdin, le père de la magie moderne, le modèle de Harry Houdini, dont on a parlé dans cette émission, et qui s'en est inspiré pour trouver son nom de scène. Robert Houdin, il a créé son numéro au milieu du 19e siècle à Paris, en utilisant son fils comme assistant. Alors, je dois le dire, dans cette chronique, je vais faire quelque chose que normalement on ne fait pas.
Vous allez révéler un tour de magie.
Je vais révéler des trucs. Mais la raison pour laquelle je me permets de révéler ces trucs, c'est le même qui fait que l'auteur du livre les a révélés, c'est qu'en fait, ces trucs, ils sont à présent connus de tous les magiciens. Donc, on ne détruit rien, on ne fait que le répéter. Bon, Mathieu, Olivier, Stéphane, à votre avis, quel était le truc? Comment est-ce que le fils de Robert Houdin, qui était pourtant dos au public et qui avait les yeux bandés, pouvait deviner les caractéristiques précises d'un objet pris au hasard qu'il ne pouvait pas voir?
Il n'avait pas les yeux bandés, en fait.
Il avait les yeux bandés entièrement.
Il voyait. Il y avait un code vocal. C'est-à-dire qu'il disait certains mots.
Il y avait un code vocal. La façon dont Robert Houdin posait la question à son fils était codée selon un principe convenu à l'avance entre eux et qu'ils étaient les seuls à connaître. La question, donc, contenait la réponse. Si, par exemple, l'objet tendu par la personne du public, c'était une montre, Robert, il disait, dis-moi, sais-tu quel objet j'ai dans la main? Si, par exemple, c'était un sac à main, la question devenait, peux-tu deviner l'objet que j'ai dans la main? Et ainsi de suite. Et même chose pour les caractéristiques
donc,
suivantes.
Il fallait se souvenir de tout le...
Bien sûr, ils avaient appris le code à l'avance. Et même chose pour les caractéristiques suivantes, la taille, la couleur, la marque, etc. Mais, au bout d'un moment, le public a cessé d'être dupe, hein, c'était un peu des Olivier Pouls, un peu qui connaissaient
des gens très intelligents.
Tout le monde a compris qu'il y avait un code et le tour est un petit peu tombé en désuétude. Jusqu'à ce qu'arrive un magicien anglais génial qui s'appelait Charles Morit. Charles, il a décidé de reprendre le tour de Robert Houdin dans les années 1880. Alors les gens, ils se sont dit sans doute, putain, le relou quoi, on est au courant, il y a un code, c'est nul, qu'est-ce qui nous fait chier? Et là, Charles, il commence son tour, sauf qu'il dit pratiquement rien. Il prend l'objet dans le public, il y a son assistante les yeux bandés sur scène et il dit en gros juste 2 mots, il dit « yes » et « thank you ». Rien d'autre. Et pourtant, son assistante, elle devine à la perfection. C'est un sac à main bleu, c'est un sac à main bleu ciel de marque Kenzo. Je remets un petit peu, c'est un peu anachronique, mais c'est une Breitling Navy Timer noire avec un bracelet en cuir. Et le public, il s'arrachait les cheveux. Personne ne comprenait, mais comment c'est possible? Ils se disent rien, il ne peut pas y avoir de code. Et pourtant, il y avait un truc, à votre avis, une nouvelle fois,
Olivier Pouls,
quel était
s'il vous plaît.
Ce truc?
Ah là, ça devient un peu plus technique.
Hein,
là, je pense que ça dépasse mes compétences de magicien.
On n'est pas dans l'intonation juste de la voix?
Non.
Non, parce qu'il y a vraiment trop peu de mots.
Je vais vous le dire peut-être.
Ah oui, on a envie.
Eh bien, au lieu de faire un code avec les mots, ils ont fait un code avec la durée du silence entre les mots.
Non.
Mais si, je m'explique. Charles, il prenait par exemple une montre à une personne du public. Ah, et là, il disait un mot, genre yes. Ce mot, c'était un signal pour que lui et son assistante commencent à compter dans leur tête exactement en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, Charles, il disait encore yes, par exemple. Et donc, l'assistante s'arrêtait de compter dans sa tête et elle savait que c'était 7. Or, 7 dans leur code, ça voulait dire montre. C'est et ainsi de suite. Un deuxième silence c'est pour génial. La couleur, un troisième pour la marque, etc. Alors aujourd'hui, 150 ans plus tard, il y a des mentalistes qui font des choses encore plus folles, donc on ne connaît pas les trucs, mais il y a une simplicité tellement brillante dans la version de Morite que ça méritait bien une chronique de 5 minutes.
C'est magnifique, j'ai envie de te refaire ça. Stéphane ne voulait pas qu'on se lance dans la magie. On pourrait faire, à mon avis, un beau duo. À mon avis, ça virait rapidement au comique parce qu'on se tromperait dans le code.
Oui, c'est ça.
Vous avez un sac violet. Non, c'était un parapluie noir.
Bon, on y est presque. Vous avez cassé mon rêve. Vous pensez qu'il y a vraiment un truc chez les mentalistes?
Chez ceux-là, il y en avait un.
Mais là, maintenant, non, quand vous voyez chez par exemple, il n'y en a pas.
Mais non, il n'y a rien.
Comment c'est... il s'appelle? Il y en a un qui s'appelle Olicard, Fabien Olicard.
Il est fort.
Très, très fort, lui. Je ne sais pas comment il fait.
C'est... Eh bien, en tout cas, c'était passionnant, comme d'habitude.
Merci. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Sur évidemment YouTube, Dailymotion, tout ce que vous voulez, et surtout sur Europe 1.fr.
Avant toute chose, effectivement. Lui, il...